Chapitre 5. Les déniche-oiseaux. C'est à peu près vers cette journée de samedi, passée par Sieur Clubin à Torteval, qu'il faut rapporter un fait singulier, peu ébruité d'abord dans le pays, et qui ne transpira que longtemps après. Car beaucoup de choses, nous venons de le remarquer, restent inconnues à cause même de l'effroi qu'elles ont fait à ceux qui en ont été témoins. Dans la nuit du samedi au dimanche, nous précisons la date et nous la croyons exacte, trois enfants escaladèrent l'escarpement de Plainmont. Ces enfants s'en retournaient au village. Ils venaient de la mer. C'était ce qu'on appelle dans la langue locale des déniche-oiseaux. Lisez déniche-oiseaux. Partout il y a des falaises et des trous de rochers au-dessus de la mer, les enfants dénicheurs d'oiseaux abondent. Nous en avons déjà dit un mot déjà. On se souvient que Gilliatt s'en préoccupait, à cause des oiseaux et à cause des enfants. Les déniche-oiseaux sont des espèces de gamins de l'océan, peu timides. La nuit était très obscure. D'épaisses superpositions de nuées cachaient le zénith. 3 heures du matin venaient de sonner au clocher de Torteval, qui est rond et pointu et qui ressemble à un bonnet de magicien. Pourquoi ces enfants revenaient-ils si tard? Rien de plus simple. Ils étaient allés à la chasse au nid de mauve dans le tas de pois d'aval. La saison ayant été très douce, les amours des oiseaux commençaient de très bonne heure. Ces enfants, guettant les allures des mâles et des femelles autour des gîtes, et distraits par l'acharnement de cette poursuite, avaient oublié l'heure, le flux les avait cernés. Ils n'avaient pu regagner à temps la petite anse où ils avaient amarré leur canot, et ils avaient dû attendre sur une des pointes du tas de pois que la mer se retira. De là leur rentrée nocturne. Ces rentrées-là sont attendues par la fiévreuse inquiétude des mères, laquelle, rassurée, dépense sa joie en colère et, grossie dans les larmes, se dissipe en taloche. Aussi se hâtaient-ils, assez inquiets. Ils avaient cette manière de se hâter qui s'attarderait volontiers et qui contient un certain désir de ne pas arriver. Ils avaient en perspective un embrassement compliqué de gifles. Un seul de ces enfants n'avait rien à craindre. C'était un orphelin. Ce garçon était français, sans père ni mère, et content en cette minute-là de n'avoir pas de mère. Personne ne s'intéressant à lui, il ne serait pas battu. Les deux autres étaient guernesiais et de la paroisse même de Torteval. La haute croupe de roches escaladées, les trois déniche-oiseaux parvinrent sur le plateau où est la maison visionnée. Ils commencèrent par avoir peur, ce qui est le devoir de tout passant, et surtout de tout enfant, à cette heure et dans ce lieu. Ils eurent bien envie de se sauver à toutes jambes, et bien envie de s'arrêter pour regarder. Ils s'arrêtèrent. Ils regardèrent la maison. Elle était toute noire et formidable. C'était au milieu du plateau désert un bloc obscur, une excroissance symétrique et hideuse, une haute masse carrée à angle rectiligne, quelque chose de semblable à un énorme hôtel de ténèbres. La première pensée des enfants avait été de s'enfuir, la seconde fut de s'approcher. Ils n'avaient jamais vu cette maison-là à cette heure-là. La curiosité d'avoir peur existe. Ils avaient un petit français avec eux, ce qu'il fit qu'ils approchèrent. On sait que les Français ne croient à rien. D'ailleurs, être plusieurs dans un danger rassure. Avoir peur à trois encourage. Et puis, on est chasseur, on est enfant. À trois qu'on est, on n'a pas 30 ans. On est en quête, on fouille, on épie les choses cachées. Est-ce pour s'arrêter en chemin? On avance sa tête dans ce trou-ci. Comment ne point l'avancer dans ce trou-là? Qui est en chasse subit un entraînement, qui va à la découverte et dans un engrenage. Avoir tant regardé dans le nid des oiseaux, cela donne la démangeaison de regarder un peu dans le nid des spectres. Fureté dans l'enfer, pourquoi pas? De gibier en gibier, on arrive aux démons. Après les moineaux, les farfadets. On va savoir à quoi s'en tenir sur toutes ces peurs que vos parents vous ont faites. Être sur la piste des contes bleus, rien n'est plus glissant. En savoir aussi long que les bonnes femmes, cela tente. Tout ce pêle-mêle d'idées, à l'état de confusion et d'instinct dans la cervelle des dénichoiseaux guernesiais, eut pour résultante leur témérité. Ils marchèrent vers la maison. Du reste, le petit qui leur servait de point d'appui dans cette bravoure en était digne. C'était un garçon résolu, apprenti qu'alpha. De ses enfants déjà hommes, couchant au chantier sur de la paille dans un hangar, gagnant sa vie, ayant une grosse voix, grimpant volontiers aux murs et aux arbres, sans préjugés vis-à-vis des pommes près desquelles il passait. Ayant travaillé à des radoupes de vaisseaux de guerre, fils du hasard, enfant de raccro, orphelin gay, né en France et on ne savait tout. De raison pour être hardi. Ne regardant pas à donner un double à un pauvre, très méchant, très bon, blond jusqu'au roux, ayant parlé à des Parisiens. Pour le moment, il gagnait un chelin par jour à calfater des barques de poissonniers, en réparation aux pêqueries. Quand l'envie lui en prenait, il se donnait des vacances et allait dénicher des oiseaux. Tel était le petit Français. La solitude du lieu avait on ne sait quoi de funèbre. On sentait là l'inviolabilité menaçante. C'était farouche. Ce plateau, silencieux et nu, dérobait à très courte distance dans le précipice sa courbe déclive et fuyante. La mer en bas se taisait. Il n'y avait point de vent. Les brins d'herbe ne bougeaient pas. Les petits dénichoiseaux avançaient à pas lents, l'enfant français en tête, en regardant la maison. L'un d'eux, plus tard, en racontant le fait, ou l'à peu près qui lui en était resté, ajoutait « Elle ne disait rien ». Ils s'approchaient, en retenant leur haleine, comme on approcherait d'une bête. Ils avaient gravi le roidillon qui est derrière la maison et qui aboutit du côté de la mer à un petit isthme de rochers peu praticable. Ils étaient parvenus assez près de la masure, mais ils ne voyaient que la façade sud, qui est toute murée. Ils n'avaient pas osé tourner à gauche, ce qui les eût exposés à voir l'autre façade où il y a deux fenêtres, ce qui est terrible. Cependant, ils s'enhardirent. L'apprenti qu'Alpha leur ayant dit tout bas, « Virons à bâbord. C'est ce côté-là qui est le beau. Il faut voir les deux fenêtres noires. » Ils virèrent à bâbord et arrivèrent de l'autre côté de la maison. Les deux fenêtres étaient éclairées. Des enfants s'enfuirent. Quand ils furent loin, le petit Français se retourna. « Tiens, dit-il, il n'y a plus de lumière. » En effet, il n'y avait plus de clarté aux fenêtres. La silhouette de la masure se dessinait, découpée comme à l'emporte-pièce, sur la lividité diffuse du ciel. La peur ne s'en alla point, mais la curiosité revint. Les dénichoiseaux se rapprochèrent. Brusquement, aux deux fenêtres à la fois, la lumière se refit. Les deux gars de Torteval reprirent leurs jambes à leur cou et se sauvèrent. Le petit Satan de Français n'avança pas, mais ne recula pas. Il demeura immobile, faisant face à la maison et la regardant. La clarté s'éteignit, puis brilla de nouveau. Rien de plus horrible. Le reflet faisait une vague traînée de feu sur l'herbe mouillée par la buée de la nuit. À un certain moment, la lueur dessina sur le mur intérieur de la masure de grands profils noirs qui remuaient et des ombres de têtes énormes. Du reste, la masure était sans plafond ni cloison, et n'ayant plus que les quatre murs et le toit, une fenêtre ne peut pas être éclairée sans que l'autre le soit. Voyant que l'apprenti qu'Alpha restait, les deux autres dénichoiseaux revinrent, pas à pas, l'un après l'autre, tremblants, curieux. L'apprenti qu'Alpha leur dit tout bas, « Il y a des revenants dans la maison. j'ai vu le nez d'un. Les deux petits de Torteval se blottirent derrière le français, et haussés sur la pointe du pied, par-dessus son épaule, abrités par lui, le prenant pour bouclier, l'opposant à la chose, rassurés de le sentir entre eux et la vision, ils regardèrent, eux aussi. La masure de son côté semblait les regarder. Elle avait, dans cette vaste obscurité muette, deux prunelles rouges. C'étaient les fenêtres. La lumière s'éclipsait, reparaissait, s'éclipsait encore, comme font ces lumières-là. Ces intermittences sinistres tiennent probablement au va-et-vient de l'enfer. Cela s'entr'ouvre, puis se referme. Le soupirail du sépulcre a des effets de lanterne sourde. Tout à coup, une noirceur très opaque, ayant la forme humaine, se dressa sur l'une des fenêtres, comme si elle venait du dehors, puis s'enfonça dans l'intérieur de la maison. Il sembla que quelqu'un venait d'entrer. Entrer par la croisée, c'est l'habitude des alleurs. La clarté fut un moment plus vive, puis s'éteignit et ne reparut plus. La maison redevint noire. Alors il en sortit des bruits. Ces bruits ressemblaient à des voix. C'est toujours comme cela. Quand on voit, on n'entend pas. Quand on ne voit pas, on entend. La nuit sur la mer a une taciturnité particulière. Le silence de l'ombre est là, plus profond qu'ailleurs. Lorsqu'il n'y a ni vent ni flot, dans cette remuante étendue où d'ordinaire on n'entend pas voler les aigles, on entendrait une mouche voler. Cette paix sépulcrale donnait un relief lugubre au bruit qui sortait de la masure. « Voyons voir, » dit le petit français. Et il fit un pas vers la maison. Les deux autres avaient une telle peur qu'ils se décidèrent à le suivre. Ils n'osaient plus s'enfuir tout seuls. Comme ils venaient de dépasser un assez gros tas de fagots qui, on ne sait pas pourquoi, les rassurait dans cette solitude, une chevêche s'envola d'un buisson. Cela fit un froissement de branches. Les chevêches ont une espèce de vol louche, d'une obliquité inquiétante. L'oiseau passa de travers près des enfants, en fixant sur eux la rondeur de ses yeux clairs dans la nuit. Il y eut un certain tremblement dans le groupe derrière le petit français. Il apostropha la chevêche. « Moineau, tu viens trop tard. Il n'est plus temps. Je veux voir. » Et il avança. Le craquement de ses gros souliers cloutés sur les ajoncs n'empêchait pas d'entendre les bruits de la masure qui s'élevait et s'abaissait, avec l'accentuation calme et la continuité d'un dialogue. Un moment après, il ajouta « D'ailleurs, il n'y a que les bêtes qui croient aux revenants. » L'insolence dans le danger rallie les traînards et les pousse en avant. Les deux gars de Torteval se remirent en marche, emboîtant le pas à la suite de l'apprenti Calfa. La maison visionnée leur faisait l'effet de grandir démesurément. Dans cette illusion d'optique de la peur, il y avait de la réalité. La maison grandissait en effet, parce qu'ils en approchaient. Cependant, les voix qui étaient dans la maison prenaient une saillie de plus en plus nette. Les enfants écoutaient, l'oreille aussi à ses grossissements. C'était autre chose qu'un murmure, plus qu'un chuchotement, moins qu'un brouhaha. Par instant, une ou deux paroles clairement articulées se détachaient. Ces paroles, impossibles à comprendre, sonnaient bizarrement. Les enfants s'arrêtaient, écoutaient, puis recommençaient à avancer. « C'est la conversation des revenants, » murmura l'apprenti Calfa. « Mais je ne crois pas aux revenants. » Les petits de Torteval étaient bien tentés de se replier derrière le tas de fagots, mais ils en étaient déjà loin, et leur ami le Calfa continuait de marcher vers la masure. Il tremblait de rester avec lui, et il n'osait pas le quitter. Pas à pas, et perplexe, il le suivait. L'apprenti Calfa se tourna vers eux et leur dit « Vous savez que ce n'est pas vrai, il n'y en a pas. La maison devenait de plus en plus haute, les voix devenaient de plus en plus distinctes. Ils approchaient. En approchant, on reconnaissait qu'il y avait dans la maison quelque chose comme de la lumière étouffée. C'était une lueur très vague, un de ces effets de lanterne sourde indiqués tout à l'heure et qui abondent dans l'éclairage des sabbats. Quand ils furent tout près, ils firent halte. Un des deux de Torteval hasarda cette observation. « Ce n'est pas des revenants, c'est des dames blanches. »« Qu'est-ce que c'est que ça qui pend à une fenêtre ?» demanda l'autre. « Ça a l'air d'une corde. » « C'est un serpent. »« C'est de la corde de pendu, » dit le Français avec autorité. « Ça leur sert, mais je n'y crois pas. » Et, en trois bonds plutôt qu'en trois pas, il fut au pied du mur de la masure. Il y avait de la fièvre dans cette hardiesse. Les deux autres frissonnants l'imitèrent et vinrent se coller près de lui, se serrant l'un contre son côté droit, l'autre contre son côté gauche. Les enfants appliquèrent leur oreille contre la muraille. On continuait de parler dans la maison. Voilà ce que disaient les fantômes.
« Ah si, entendido está. Ainsi c'est entendu.
Entendido. Entendu.
Dicho. C'est dit.
Dicho.
Dit.
A cui esperar a un hombre y podrá marcharse en Inglaterra con Blasquito.
Un homme attendra ici et pourra s'en aller en Angleterre avec Blasquito.
Pagando. En payant.
Pagando. En payant.
Blasquito tomará al hombre en su barca.
Blasquito prendra l'homme dans sa barque.
Sin buscar para conocer a su país.
Sans chercher à savoir de quel pays il est.
No nos toca.
Cela ne nous regarde pas.
Ni a su nombre del hombre.
Sans lui demander son nom.
No se pide el nombre, pero se pesa la bolsa.
On ne demande pas le nom. On pèse la bourse.
Bien. Esperar a el hombre en esa casa.
Bien. L'homme attendra dans cette maison.
Tenga que comer.
Il faudra qu'il ait de quoi manger.
Tendra. Il en aura.
Onde?
Où?
En este saco que he llevado.
Dans ce sac que j'apporte.
Muy bien. Très bien.
Puedo dejar el saco aquí?
Puis-je laisser ce sac ici?
Los contrabandistas no son ladrones.
Les contrebandiers ne sont pas des voleurs.
Y vosotros, cuando marcháis?
Et vous autres, quand partez-vous?
Mañana por la mañana. Si su hombre de usted está parado, podría venir con nosotros.
Demain matin, si votre homme était prêt, il pourrait venir avec nous.
Parado no está.
Il n'est pas prêt.
Hacienda suya. C'est son affaire.
¿Cuántos días esperará ahí?
Combien de jours aura-t-il à attendre dans cette maison?
Dos, tres, cuatro días, menos o más.
Deux, trois, quatre jours, moins ou plus.
Es cierto que el Blasquito vendra.
Est-il certain que Blasquito viendra?
Certo. Certain.
En este plein mont.
Ici, à plein mont.
En este plein mont.
À plein mont.
A cual semana?
Quelle semaine?
Là, que bien. La semaine prochaine.
A cual día? Quel jour?
Viernes, o sabado, o domingo.
Vendredi, samedi ou dimanche.
No puede faltar.
Il ne peut manquer.
Es mi tocayo.
Il est mon tocayo.
Por cualquiera tiempo viene.
Il vient par tous les temps.
Cualquiera. No tiene.
Soy el Blasco.
Es el Blasquito.
Par tous. Il n'a pas peur.
Je suis Blasco.
Il est Blasquito.
Así no puede faltar de venir en Guernesey.
Ainsi, il ne peut manquer de venir à Guernesey.
Vengo a une messe, y viene a l'autre messe. Je viens à moi, il vient l'autre moi.
Entiendo.
Je comprends.
A cuenta del otro sábado, desde hoy en ocho, no se pasarán cinco días sin que venga el biscuito.
À compter de samedi prochain, d'aujourd'hui en huit, il ne se passera pas cinq jours sans que biscuito arrive.
Pero un muy malo mar?
Mais si la mer était très dure?
Eguraldi agastoa.
Basque, mauvais temps.
Si, oui.
Ne vendria il biscuito tan pronto,
però vendria.
Biscuito ne viendrait pas si vite, mais il viendrait.
Tant dependra.
D'où viendra-t-il?
De Bilbao.
De Bilbao.
Onde ira?
Où ira-t-il?
En Portland.
À Portland.
Bien, c'est bien.
Ou en Torbe.
Ou à Torbe.
Mejor. C'est mieux. Su hombre de usted puede estar secreto.
Votre homme peut être tranquille.
Le traído sera el blascuito.
Blascuito ne trahira pas.
Los guardes son traidores. Somos parientes.
El mar es la iglesia del invierno.
La traición es la iglesia del infierno.
Les lâches sont les traîtres. Nous sommes des vaillants.
La mer est l'église de l'hiver. La trahison est l'église de l'enfer.
No se entiende a lo que decimos.
Personne n'entend ce que nous disons.
Es ya a nosotros si mirar a nosotros.
Es imposible.
La espanta se harí el desierto.
Nous écouter et nous regarder est impossible. L'épouvante fait ici le désert.
Lo sé.
Je le sais.
¿Quién se atravesaría el escuchar?
Qui oserait se hasarder à nous écouter?
Es verdad.
C'est vrai.
Si escucharían que no entendrían, hablamos a una lengua fiera y nuestra, que no se conoce.
Después que lo sabéis, eres con nosotros.
D'ailleurs, on écouterait qu'on ne comprendrait pas.
Nous parlons une farouche langue à nous, que personne ne connaît.
Puisque vous la savez, c'est que vous êtes des nôtres.
Soy venido para componer las haciendas con ustedes.
Je suis venu pour prendre des arrangements avec vous.
Bueno, c'est bon. Y ahora me voy.
Maintenant, je m'en vais.
Mucho.
Soit.
Dígame usted, hombre.
Si el pasajero quiere que el basquito le lleve en ninguna otra parte que Portland o Torbe.
Dites-moi, si le passager veut que Blasquito conduise ailleurs qu'à Portland ou à Torbe.
Tenga onces.
Qu'il ait des onces.
El Blasquito hará lo que quiera el hombre.
Blasquito fera-t-il ce que l'homme voudra.
El Blasquito hace lo que quieren las onces.
Blasquito fera ce que les onces voudront.
Es menester mucho tiempo para ir en Torbe.
Faut-il beaucoup de temps pour aller à Torbe?
Como quiere el viento.
Comme il plaît au vent.
8 horas?
8 heures?
Menos o más.
Moins ou plus.
El Blasquito obedecerá al pasajero.
Blasquito obéira-t-il à son passager?
Si le obedece el mar a el Blasquito.
Si la mer obéit à Blasquito.
Bien pagado será. Il sera bien payé.
El oro es el oro.
El viento es el viento.
L'or est l'or. Le vent est le vent.
Mucho. C'est juste.
El hombre hace lo que puede con el oro. Dios con el viento hace lo que quiere.
L'homme avec l'or fait ce qu'il peut. Dieu avec le vent fait ce qu'il veut.
A qui sera bien ese que desea marcharse con Blasquito?
L'homme qui compte partir avec Blasquito sera ici vendredi.
Pues,
bien.
A quel momento llega Blasquito?
A quel moment arrive Blasquito?
A la noche.
A la noche se llega. A la noche se marcha.
Tenemos una mujer quien se llama Edmar. y una hermana que se llama la noche. La mujer puede faltar, la hermana no. À la nuit, on arrive la nuit, on part la nuit. Nous avons une femme qui s'appelle la mère et une sœur qui s'appelle la nuit. La femme trompe quelquefois, la sœur jamais. Todo dice esto, abor hombres. Tout est convenu, adieu homme. Buenas tardes, un golpe de aguardiente. Bonsoir, un coup d'eau de vie. Gracias, merci. Es mejor que zarope. C'est meilleur que du sirop. Tengo vuestra palabra. J'ai votre parole. Mi nombre es Point d'Honneur. Mon nom est Point d'Honneur. Sea usted con Dios. Adieu. Elle est gentleman et soy caballero. Vous êtes gentilhomme et je suis chevalier.
Il était clair que des diables seuls pouvaient parler ainsi. Les enfants n'en écoutèrent pas davantage, et cette fois prirent la fuite pour de bon. Le petit Français, enfin convaincu, courant plus vite que les autres. Le mardi qui suivit ce samedi, Sieur Clubin était de retour à Saint-Malo, ramenant la Durande. Le Tamaulipas était toujours en rade. Sieur Clubin, entre deux bouffées de pipe, demanda à l'aubergiste de l'auberge Jean.
« Eh bien, quand donc part-il ce Tamaulipas ?»«
Après-demain jeudi, » répondit l'aubergiste.
Ce soir-là, Clubin soupa à la table des gardes-côtes et, contre son habitude, sortit après son souper. Il résulta de cette sortie qu'il ne put tenir le bureau de la Durande et qu'il manqua à peu près son chargement. Cela fut remarqué d'un homme si exact. Il paraît qu'il causa quelques instants avec son ami le changeur. Il rentra 2 heures après que Noguette eut sonné le couvre-feu. La cloche brésilienne sonna 10 heures. Il était donc minuit.